je propose de commencer tout de suite. Donc, les pratiques scolaires de racisation et de différenciation de traitement avec la communication de Fadia Tali, dont l'intitulé, vous le voyez, orientation vers la SECPA liée au genre, l'origine sociale et ethnique, et qui par ailleurs a changé d'institution.
Bah, je suis passée de
aujourd'hui donc
à Nice Sophia Antipolis.
Voilà, maîtresse de conférence à l'université de Nice Sophia Antipolis et on vient de faire connaissance puisque nous sommes dans le même établissement. Voilà. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole et puis ensuite on va poursuivre dans l'ordre qui est affiché. Merci. Un quart d'heure.
Merci. Je vais essayer de tenir le temps. Donc je vais commencer cette présentation par le titre qui est une question. Donc orientation vers la SECPA liée au genre, à l'origine sociale et ethnique. C'est ma question de départ. Le plan de mon intervention sera somme toute assez classique. Je commencerai d'abord par vous présenter le contexte de la recherche qui m'a amené justement à poser cette question. Le cadre théorique que j'ai mobilisé pour mener cette recherche, qui est inscrite dans une approche sociocognitive, puisque c'est mon champ de recherche aussi. Je préciserai la méthodologie que j'ai choisi d'utiliser, qui est à la fois basée sur des questionnaires, mais également sur une analyse de documents. Je vous présenterai les résultats ensuite, assez classiquement, mais avec deux entrées. Une relative au profil des élèves, qui sont orientés vers la SECPA et donc leur trajectoire scolaire, et un second temps sur les résultats relatifs aux dispositifs d'orientation, justement, des établissements scolaires que j'ai essayé d'étudier. Et je terminerai par une discussion conclusive, pour le coup. Alors, pour le contexte, je vais commencer par une petite citation. Ça, c'est la circulaire de 2015 du ministère qui précise, en fait, le profil des élèves de SECPA. Et au collège, donc, les SECPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes. On note que l'institution part du postulat que ces élèves sont orientés sur ces dispositifs par la cause principale qui serait liée à des difficultés scolaires, donc des difficultés au plan cognitif. Or, plusieurs études ont montré, et en particulier celle de Rouanet, à partir des analyses des évaluations nationales, qu'il a menées en fait sur des panels de collégiens, des classes ordinaires et de SECPA, que finalement, l'élément décisif de l'orientation vers la SECPA n'était pas strictement lié au niveau des évaluations nationales, c'est-à-dire à la réussite scolaire. Donc il y avait d'autres facteurs qui intervenaient là-dedans. Et en particulier, il note que l'appartenance sociale et l'appartenance géographique des élèves sont des paramètres de leur orientation. J'ajouterai que moi j'avais mené déjà des études sur le sujet, et puis les travaux de Zafran l'ont largement démontré et repris, sur des nombres assez importants d'élèves, sur des cohortes, on a une surreprésentation des élèves issus de familles défavorisées. Et dans cette question-là de l'orientation, c'est un élément qui est à questionner. D'où ma question de départ à partir de tous ces éléments-là. Finalement, quels facteurs liés à l'élève ou à l'établissement participent d'une orientation vers la SECPA? Alors, mon cadre théorique, comme je vous disais, il s'inscrit dans une approche sociocognitive. Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes du champ, ce sont les travaux de Bandura. Et les travaux de Bandura ont été repris par Lent pour préciser, en fait, à partir de sa théorie principale, ce qu'est la théorie sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, je reprends très rapidement ce qu'est Bandura pour un petit peu remettre ce schéma qui est un petit peu complexe. Bandura explique en fait que l'être humain est un acteur, est un agent actif de son parcours de vie, et que dans son comportement, en fait, il y a deux éléments qui interviennent, ces facteurs personnels qui sont construits avec, par exemple, son niveau de sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire sa croyance à pouvoir mener à bien une action dans un contexte donné, et puis d'autres éléments qui viennent du contexte dans lequel il est, c'est-à-dire l'environnement familial, l'environnement scolaire pour le coup, qui vont venir impacter ses choix et ses décisions de comportement. Lent a repris le schéma en précisant ces entrées-là par rapport à l'orientation. Donc là, on est sur un schéma en fait, qui questionne les facteurs liés à l'élève et à sa place en tant qu'acteur dans son orientation. Donc si je reprends le schéma, j'ai pas de pointeur, mais pour les éléments principaux que l'aide a retenu. Donc on a l'auto-efficacité attendue. Donc ce fameux niveau de sentiment d'auto-efficacité qui fait que plus on a un niveau élevé, plus on va persister face aux difficultés, par exemple d'apprentissage, résister, etc. Il est nourri par toutes les expériences vécues par l'élève. Expérience de réussite ou expérience d'échec. Donc forcément, tous ces éléments-là viennent et sont nourris par le contexte dans lequel il vit. Donc il y a des éléments, des caractéristiques dites personnelles, ce qu'il appelle les prédispositions, donc c'est les capacités tout simplement cognitives, le genre, l'ethnie, il le précise dès le départ au niveau de son schéma, 2008. Le champ du handicap, qu'on reprendra par la suite, l'état de santé, et puis le contexte social. Alors le contexte social peut être repris à la fois d'un point de vue familial, mais également au niveau de l'établissement. Et tous ces éléments-là vont en fait impacter les choix, les influences, les choix d'orientation future qu'il aura ou qu'il n'aura pas. Puisque sa marge de manœuvre en tant qu'acteur va dépendre fortement du contexte dans lequel il est mis pour pouvoir agir en tant qu'acteur. Donc les facteurs finalement liés à l'élève, là on a vraiment les éléments liés à la famille et puis le contexte dans lequel est mis l'élève. Deuxième niveau pour le cadre théorique, ce qui m'intéressait c'était aussi de questionner finalement qu'est-ce que c'est qu'un dispositif d'orientation. Je le résume assez simplement. Alors déjà pour parler de dispositif, si on parle d'un dispositif, on a le mot, la référence latine, qui sert à séparer, réarranger, ça c'est le sens latin de base. Si on parle de dispositif selon Figari, c'est classique aussi comme entrée théorique, on parle de système, de sous-système à la fois institutionnel, comme le conseil de classe, mais aussi des influences, des acteurs qui interviennent. Donc là, on a les chefs d'établissement, les acteurs de l'orientation, les assistants sociaux, AS, COP, conseil d'orientation, et puis l'équipe enseignante qui fait partie prenante du dispositif d'orientation, puisque souvent ce sont les enseignants qui vont pointer que tel ou tel élève ne peut pas suivre dans les classes ordinaires et qu'il faudrait éventuellement penser à proposer quelque chose derrière. Beaucoup de travaux ont été menés sur finalement le fonctionnement des dispositifs au sein des établissements, en particulier sur l'orientation. Je fais référence aux travaux de Cousin ou par exemple de Djurubela, et ils ont montré plusieurs types d'influences. Les facteurs liés à la famille. Bien sûr, plus la famille est favorisée, et plus elle aura son mot à dire, elle va intervenir pour éventuellement refuser, par exemple, des orientations qu'elle jugerait non conformes à ses attendus. Assez classique aussi sur le champ du handicap, par ailleurs. Tous les facteurs liés à l'élève. Alors, on parlait du handicap, mais on parle aussi de sa capacité à suivre ou pas dans le quotidien de la classe. Les élèves dits perturbateurs ou ayant des troubles du comportement quand on rentre dans le champ du handicap vont être très vite repérés comme ne pouvant pas poursuivre une scolarité, alors que d'autres élèves à statut scolaire égal en termes de notes vont poursuivre peu ou prou leur parcours dans l'ordinaire parce qu'ils n'auront pas perturbé en fait la cohorte classique de la classe. L'enseignant ne l'aura pas repéré. Je ne donne que quelques éléments, sinon je détaillerai beaucoup trop. D'autres travaux montraient toutes les pressions institutionnelles, puisque l'institution actuellement demande qu'il n'y ait plus de redoublement. On demande à ce qu'il y ait une fluidité des parcours. Donc ces élèves-là n'ont pas le temps matériel pour certains de récupérer une forme d'apprentissage s'ils ont pris du retard par rapport à la cohorte classique. Alors maintenant on parle de cycles, effectivement, sur lesquels les compétences doivent être acquises à la fin d'un cycle. Mais en réalité, dans la classe, on regarde toujours, et ça c'est tous les phénomènes de l'évaluation, les enseignants vont chercher toujours à reclasser les élèves en faible, moyen et fort. Alors, tout dépend aussi où se situe l'élève. Et puis, tout ce qui est facteur lié à l'image de l'établissement. Alors, les établissements, ils sont évalués. Donc, on voit là, par exemple, les débats actuels sur les évaluations CPCE20, qui font un grand débat, puisque ça peut être un élément de management politique, puisqu'on va pouvoir évaluer aussi les équipes et les établissements eux-mêmes. La question de ces facteurs, c'est que pour les collèges, il y a un enjeu fort. C'est le taux de réussite au brevet national. Donc du coup, les établissements, et donc les travaux par exemple du Rebella l'ont montré, vont jouer en fait la réorientation de certains élèves qui, par leurs résultats scolaires trop faibles, pourraient faire baisser en fait le résultat du DNB. Donc tous ces éléments-là nous amènent à poser la question de ce dispositif d'orientation comme processus de sélection des élèves et quels sont finalement les deux éléments entre les facteurs liés à l'élève qu'on vient de voir et ceux liés à l'établissement m'ont amené à poser mon hypothèse générale qui est la suivante. C'est que finalement, il y a bien un ensemble de facteurs liés à l'élève et aux caractéristiques du dispositif d'orientation de l'établissement d'origine qui participent du processus d'orientation vers la SECPA. Alors, pour ceux qui ne sont pas adeptes de la SECPA, ce sont des sections d'enseignement général professionnel adapté qui se situent au sein des collèges ordinaires et qui permettent en fait à des élèves en difficulté scolaire de suivre un parcours, mais qui ne leur permet pas d'obtenir le brevet. Ils peuvent avoir un brevet professionnel, voilà, niveau DNB, on appelle le DNB professionnel, et la plupart du temps, un certificat de formation générale qui ne leur permet pas non plus d'aller sur du lycée général. C'est-à-dire que l'objectif de la SECPA, c'est d'arriver à des diplômes, allez, de CAP, niveau 5. Donc on a une limitation des possibles quand l'élève va sur la SECPA. Ça, c'est à prendre en compte sur la compréhension de la suite. Le cadre méthodologique est le suivant. Alors, mon enquête est déroulée sur le département de Haute-Garonne, dans l'Académie Midi-Pyrénées, qui depuis est devenue à Occitanie. Alors, le questionnaire, ce sont des questionnaires qui ont été soumis à 353 élèves provenant de 14 SECPA différentes. Ça représentait à peu près 50% de la cohorte des élèves. Et j'ai aussi regardé, en fait, le fonctionnement des dispositifs d'orientation de 52 collèges dont sont issus ces 353 élèves. L'objectif étant celui-ci. De soumettre les questionnaires auprès des élèves, donc après analyse classique. Et puis, pour les collèges, c'était d'aller regarder comment les établissements ont monté les dossiers d'orientation. Donc, il a été un gros travail qui a été fait sur le terrain, c'est l'analyse des dossiers d'orientation sur la SECPA sur 5 ans, pour voir, en fait, comment ces établissements, ces 52 établissements, montaient des dossiers, et puis la pérennité des décisions, parce qu'il se peut qu'il y ait une année où ils en montent un peu plus, une année un peu moins. Donc, voir si c'est des dispositifs d'orientation qui ont un fonctionnement classique et linéaire, ou alors si ça perturbe sans arrêt. Alors, au niveau des résultats, donc, des résultats, on va dire, assez globaux, très classiques. D'abord, des trajectoires scolaires qui sont liées au genre. On a une surreprésentation des garçons. 62% de garçons en SECPA. A contrario, on retrouve 49%, 50% sur l'enseignement général. Une surreprésentation d'enfants migrants au niveau des SECPA, avec 23% d'élèves nés à l'étranger. 5% comparativement sur le plan national, c'est le chiffre. Pour le contexte socio-économique, il est fortement marqué par un contexte défavorisé. Et là, pour le coup, les chiffres sont assez impressionnants. 79% des pères des élèves de SECPA sont de CSP défavorisés ou de PCS, alors les spécialistes l'utilisent l'un ou l'autre. 91% des mères sont de CSP défavorisés sur la SECPA. Et puis, un élément, comparaison toujours, par rapport toujours à l'académie, en fait, 34% des parents de l'académie sont de CSP défavorisés, donc on voit bien qu'il y a une grosse différence par rapport à la SECPA sur une surreprésentation de ces familles. Et puis, la question du maintien. Le maintien en cycle 2, qui apparaît prégnant, 61% des élèves de SECPA ont été maintenus au cycle 2, anciennement cycle 2, CPCE1. 15% sur le plan national, comparativement, toujours. Une première typologie a été faite sur les dispositifs d'orientation avec, comme élément prégnant dans les variables retenues, le nombre de dossiers qui ont été montés. Donc, quel est le pourcentage de dossiers montés par rapport à l'effectif global? Quel pourcentage il représente? Savoir si l'établissement est sélectionneur ou pas. Donc, s'il monte beaucoup de dossiers par rapport à sa cohorte, il est fortement sélectionneur. S'il monte peu de dossiers, il est faiblement sélectionneur. Donc après, tous les détails, je vous les donne si vous les voulez, mais j'ai simplifié. Et puis la fonctionnalité du dispositif d'orientation. C'est-à-dire qu'on présente 10 dossiers. Est-ce qu'il y en a 10 qui sont effectivement à la fin orientés en SECPA? Donc là, il est fortement fonctionnel. Ça veut dire que les élèves repérés pour une orientation en SECPA correspondent bien au profil des élèves attendus. Ou alors, il est faiblement fonctionnel. Il y en aura peut-être 3 ou 4 sur 10 qui correspondront réellement à l'orientation. On retrouve 4 profils. Un profil d'établissements qui sont dits les favorisés, fortement sélectionnaires et fonctionnels. Ce sont des établissements en fait, qui ont des CSP favorisés, donc collège avec des parents plutôt CSP++, qui sont fortement sélectionnaires. Ils présentent beaucoup de dossiers. Et fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui sont présentés, sont orientés en SECPA. Un second type,
c'est les moyennement sélectionneurs. Ce sont des établissements qui, peu ou prou, d'une année sur l'autre, conservent toujours le même système de fonctionnement, sélectionnent une partie de leurs élèves pour être envoyés en SECPA, et sont peu fonctionnels. Type 3, les favorisés faiblement sélectionneurs. Donc, toujours des établissements riches, entre guillemets, et sélectionnent peu. Et le type 4, ce sont les établissements défavorisés, qui sélectionnent énormément et qui sont fonctionnels. Donc ça, on les retrouve en particulier sur les dispositifs rares. Typologie pour les élèves de SECPA. On en retrouve 5. Un premier profil, qui est un profil d'élève de parents français, qui appartient à la communauté des gens du voyage. Un second profil, ce sont des élèves dits primo-arrivants, qui viennent principalement du Maghreb et qui viennent de collèges à PCS majoritaires défavorisés. Un troisième profil, ce sont des filles et élèves dites de seconde génération. Ce sont des parents français de PCS défavorisés et qui viennent de collèges majoritairement défavorisés. Profil 4, là on a les élèves de parents français, donc de PCS défavorisés, et qui viennent de collèges majoritairement favorisés, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui sont sortis de collèges riches pour être réorientés. Et puis un profil particulier, marqué par le genre aussi, c'est un garçon de parents français, mais qui relève du champ du handicap, qui sont très tôt repérés comme ne pouvant pas suivre en fait un parcours ordinaire et qui se retrouvent en SECPA. Par rapport à ces résultats, je verrai sur un effet de composition au final entre les facteurs liés à l'élève et à ceux des établissements. D'abord, l'établissement d'origine. Donc il y en a un fort poids de la PCS majoritaire et l'appartenance géographique. Puis, les effets établissements qui ont été largement décrits par Durubella montrent effectivement que le contexte dans lequel les élèves sont vont impacter les résultats, le climat scolaire, etc. etc. L'autosélection des familles. Les communautés de gens du voyage ont tendance à préférer envoyer leurs enfants sur la SECPA, même si ça change petit à petit avec les années, on a encore une surreprésentation de cette population. Des problématiques ethnopsychologiques. Les travaux d'Omoro ont montré qu'il y en a une surreprésentation d'enfants migrants, par exemple, sur des dispositifs relevant du handicap en ITEP, des élèves avec troubles du comportement. Donc, la question de la migration revient là derrière. Qu'est-ce qui se passe pour que ces élèves ne trouvent pas leur place au sein du système éducatif actuel ? Les pratiques enseignantes questionnées, c'est toutes les pratiques linguistiques, les pratiques langagères en classe, qui vont créer des quiproquos et mettre à distance des gamins qui ne parlent pas la langue de la maison, entre guillemets, puisque les travaux ont montré, plus la langue de l'école est proche de celle de la maison, et plus les élèves réussissent. Les effets de stéréotypes sociaux sur la décision d'orientation scolaire, donc des travaux très intéressants qui ont été menés, où on voit que les enseignants changent leur façon de juger l'orientation future d'un élève en fonction de certains critères, en particulier le contexte socio-économique familial. Ces éléments-là m'amènent donc à compléter le modèle que j'avais proposé au début, avec le dispositif d'orientation comme un facteur complémentaire du schéma principal, et puis la question de l'origine ethnique et du lieu de scolarisation, qui sont à re-questionner parce que ces éléments de contexte influent finalement fortement sur les décisions finales, à la fois de l'élève, mais aussi du dispositif d'orientation lui-même. J'essaie de faire court. Merci de votre attention. Je pense que j'ai dépassé, mais...
Je vous propose de conserver vos questions et de passer à la deuxième communication. Je vous laisse vous présenter.
Donc, je suis Simona Tersini, maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Nanterre, membre du SOFIAPOL.
Bonjour, je suis Audrey Boulin, maître de conférence en sciences de l'éducation, laboratoire EMA de l'université Cergy-Pontoise.
Bonjour, Melvina Orlagna, maître de conférence en sociologie à l'IMSHEA.
Bon, c'est moi qui commence, donc je ne sais pas. Hein?
Oui.
Bon, donc je suis en charge d'ouvrir notre communication dont le titre est « Différenciation et différentialisme au cœur des pratiques scolaires auprès des enfants migrants en France ». Et disons que mon introduction a l'objectif de présenter un tableau qui va mieux permettre de comprendre les enjeux de notre recherche et ses modalités avec quelques résultats en un quart d'heure. Donc tout d'abord, ce qui est important à souligner, c'est qu'en France, les travaux de recherche portant sur les discriminations à l'école sont encore rares pour ce qui est des enfants qui aujourd'hui se font appeler les enfants allophones nouvellement arrivés, dont le sigle est EANA, donc enfants allophones nouvellement arrivés. En revanche, les travaux, évidemment, sur les enfants descendants de migrants sont beaucoup plus amples. Il y a toute une tradition en France, de Françoise Lorcerie ici présente, à Jean-Paul Payet, Agnès Darzantaine, Georges Fellouzi, Fabrice Dume, et puis la liste pourrait s'allonger, mais voilà, je vais m'arrêter là. Et donc, en effet, il existe seulement quelques travaux qui mettent en évidence les écarts de performance scolaire entre les enfants migrants et leurs homologues autochtones, notamment pour ce qui est des parcours scolaires appréhendés sur le plan qualitatif. Je pense notamment aux travaux de Claire Schiff sur le plan quantitatif. Après, il y a également les travaux de Mathieu Ichou, évidemment. Mais disons qu'à l'échelle internationale, quand on sort du contexte français, les vagues d'enquête PISA, commanditées par l'OCDE, pointent notamment deux dimensions. Tout d'abord, une appréhension du ressenti des élèves migrants, et cela grâce à des comparaisons internationales, par rapport à leurs homologues, qui ne sont pas des migrants. Donc s'il y a ces écarts, c'est que ces écarts ont été étudiés à la fois dans le ressenti scolaire qui existerait entre pays, mais aussi à l'intérieur de chaque pays, aux membres de l'OCDE, entre les enfants migrants, disons primo-arrivants, et les enfants qui n'auraient pas de passé migratoire récent. Et d'autre part, il y aurait également un écart de performance entre les enfants migrants et les enfants autochtones. Et en particulier, cet écart a été mesuré pour le système éducatif français. Cependant, alors, ce qu'il est important de souligner initialement, c'est qu'il ne s'agit pas pour autant d'analyses, notamment celles issues des enquêtes PISA. Ces analyses, au fond, ne permettent pas de comprendre le terreau qui conduit à produire, à reproduire des discriminations, de l'ethnicisation et du racisme. Et d'autres travaux quantitatifs, notamment à l'instar de ceux qui ont été produits autour de l'enquête Théo avec Jean-Luc Primon et Patrick Simon, existent certes, mais la portée qualitative et les suites qualitatives données à cette enquête ne sont pas très développées, ou en tout cas nous n'avons pas assez de visibilité sur cette dimension scolaire de l'enquête Théo au niveau qualitatif. Puis, il faudrait aussi mentionner les travaux de François Dubé, ne serait-ce que l'enquête « Pourquoi moi, l'expérience des discriminations ?» qui a l'intérêt de comparer plusieurs institutions, non seulement l'école, mais aussi l'hôpital, du point de vue qualitatif, et notamment du point de vue de la perception des acteurs sociaux par rapport à ces discriminations. Alors, face à ce tableau un peu général, j'aimerais revenir donc à un autre objet, qui est celui des élèves dits EANA, donc élèves allophones nouvellement arrivants. Et du point de vue numérique, cet effectif n'est pas très important, même s'il est en train d'augmenter. C'est-à-dire que d'après les chiffres de l'ADEP, l'enquête qui, en 2014-2015, recensait les élèves nouvellement arrivants, ont compté 52 500. Et deux ans après, en 2017-2018, cet effectif était élevé à 60 000. Voilà, donc ce n'est pas un effectif très très important. En même temps, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes penchés sur cette question, leur scolarisation est révélatrice de phénomènes généraux et aussi paradoxaux qui traversent l'institution scolaire en France dans son ensemble. Et donc, une question importante avant de laisser la parole à Audrey Boulin consiste à se demander comment sont scolarisés ces élèves qu'on appelle désormais des EANA à l'école de la République. Dans les années 1970, la situation était un peu différente, non seulement en termes de conjoncture de politique migratoire européenne, mais dans la gestion de l'éducation nationale, il y avait une volonté ségrégative et un fonctionnement ségrégatif clairement affiché. Les classes d'initiation pour non-francophones, les CLIN, étaient associées à des classes d'adaptation dans le secondaire, dans le second degré, les CLA. Et ce fonctionnement ségrégatif était largement assumé. Donc les élèves étaient scolarisés dans ces classes qui étaient dites fermées sans aucun souci. Ces classes sont devenues à ce moment-là la scène d'expérimentation diverse, mais peu contrôlée et peu étudiée. Et donc mes collègues reviendront sur les enjeux de l'enquête Evascol qu'on a contribué à mener et à coordonner, qui a été la première enquête menée par des sociologues qui n'étaient pas des inspecteurs de l'éducation nationale.
Mais depuis les années 1990, et plus récemment dans deux circulaires de 2012, qui ont créé des dispositifs officiellement plus ouverts, qui sont nommés donc les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivant, le sigle étant UPE2A, l'inclusion scolaire est officiellement prônée. Mais j'insiste sur la dimension officielle de cette inclusion, puisque la circulaire 2012-141 stipule, je cite un extrait de la circulaire, que l'objectif légal d'inclusion scolaire et d'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, qui est celui du droit commun, s'applique naturellement aux élèves allophones arrivant sur le territoire de la République. Donc, cet extrait de la circulaire implique une ségrégation limitée dans l'espace et dans le temps, puisque les élèves nouvellement arrivants sont censés intégrer progressivement ce qu'on appelle désormais la classe ordinaire, avec des élèves donc, qui ne sont pas des EANA, et dans laquelle se fait le programme scolaire associé à leur classe d'âge, qui, pour l'éducation nationale, est très important, cette adéquation entre la classe d'âge et le niveau scolaire. Or, donc, avant de laisser la parole à Audrey Boulin, il est très important de souligner juste que nos recherches relèvent que tous les établissements du premier et du second degré en France, en tout cas là où nous avons mené des recherches ces dernières années, ces établissements ne parviennent pas systématiquement à accueillir les élèves en classe ordinaire et que cette articulation entre le dispositif de ségrégation limitée dans l'espace et dans le temps ne se fait pas correctement et la classe ordinaire est souvent évacuée.
Alors, notre communication propose aujourd'hui d'analyser ces éventuels décalages entre cette législation nationale que vient de nous présenter Simona, donc cette législation nationale qui valorise l'inclusion et les droits des EANA, et d'autre part les pratiques plus ambiguës des acteurs institutionnels, et ce, dans des contextes spécifiques. Il s'agira en fait de montrer comment des réactions de fermeture et des catégorisations différentialistes persistent chez les personnels éducatifs, et nous illustrerons cela à partir de situations concrètes d'inclusion, la manière dont la volonté de minimiser la ségrégation entre en tension avec une logique de compensation des difficultés de ces élèves. En effet, l'affectation des élèves EANA dans les dispositifs UPE2A peut être vue comme une forme de discrimination positive, l'objectif étant de proposer à ces élèves un enseignant et un temps particulier pour l'apprentissage du français. Cependant, l'affectation dans ce dispositif et cette catégorisation d'élèves UPE2A, puisqu'il faut savoir que dans la plupart des cas, le nom du dispositif est employé pour désigner les élèves eux-mêmes, on parle d'élèves UPE2A. Donc cette catégorisation d'élèves UPE2A et cette affectation dans les dispositifs UPE2A ne sont pas sans entraîner des discriminations, voire du racisme de la part des professionnels. Alors, en termes de méthodologie, notre argumentation prend appui sur des données récoltées dans le cadre de deux programmes de recherche, EVASCOL de 2014 à 2018 et Éduc Inclus qui est en cours depuis 2016. Ces deux programmes de recherche ont été réalisés dans 6 académies du territoire français. Dans les lieux scolaires, en école élémentaire et au collège, nous avons mené des observations durant les temps pédagogiques et les temps scolaires, ainsi que des entretiens individuels et collectifs d'enfants, d'enseignants et d'autres membres des équipes éducatives. Plus spécifiquement, en Île-de-France, des ateliers artistiques ont également été mis en place, co-construits par des chercheurs et des artistes, dans le but de favoriser l'expression enfantine. Rapidement, les UPE2A, donc je vais vous montrer de façon assez brève comment les UPE2A sont un dispositif différenciateur pour compenser les inégalités. Alors, la fondation des UPE2A répond à une double logique. D'une part, l'allocation de moyens supplémentaires attachés à l'identification de certains besoins émanant de publics scolaires qui ne pourraient a priori pas se fondre sans préalable dans la voie scolaire majoritaire, et d'autre part
une tentative interne à cette politique éducative de lutter contre ses propres tentations et dérives ségrégatives et culturalistes. Concrètement, dans le dispositif UPE2A, on retrouve un enseignant qui est référent pour le dispositif, qui est souvent formé en français langue seconde puis de scolarisation, mais pas systématiquement, qui consacre entre 9 et 14 heures, selon le premier et le second degré, de son service dans le dispositif. Même si les pratiques pédagogiques varient d'un enseignant à l'autre, les objectifs annoncés sont de deux ordres. D'une part, l'apprentissage de la langue française. D'autre part, un soutien à l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun. Alors, l'UPE2A peut être considéré comme un dispositif de discrimination positive au vu des moyens attribués, moins d'élèves que dans une classe ordinaire, des méthodes partiellement plus originales et hétérogènes, une plus grande attention et un traitement institutionnel et organisationnel qui tient compte des spécificités des élèves et qui tente d'individualiser davantage. Au final, l'objectif de ce dispositif est de préparer au lancement d'une scolarité conventionnelle en encourageant les élèves à se rendre en classe ordinaire et ce, dès leur arrivée dans les établissements. Alors, en fonction des élèves et de leur niveau, la part consacrée à la classe ordinaire varie d'un enfant à l'autre. Au début, ça concerne plutôt les enseignements qui sont considérés comme secondaires, comme les arts plastiques, l'éducation musicale ou l'EPS. Et au fur et à mesure de l'année, la part consacrée aux enseignements plus centraux augmente en fonction de la progression de l'élève.
Alors, dans ce cadre-là, quelles sont les conséquences de ce fonctionnement institutionnel, c'est-à-dire, Audrey vient de le dire, un dispositif qui alterne, mais qui alterne de façon très aléatoire, le dispositif UPE2A, donc d'accueil des enfants primo-arrivants, et des situations d'inclusion ponctuelle. Alors, quelle forme prend cette inclusion et quels sont les risques de discrimination? Alors, vous excuserez le caractère un peu sommaire de la présentation. Ça a été dit, les élèves du PE2A sont nommés et désignés à l'aide de leur dispositif. Hein. Donc on les appelle dans les établissements scolaires, quel que soit le niveau de ces établissements, premier et second degré, les UPE2A. Ils sont ainsi mis à part et généralement cette mise à l'écart se fait visible dans les établissements scolaires où par exemple ils disposent d'une ligne de rang dans les cours de récréation à part et ils sont aussi de manière plus auto-organisée dans des endroits de la cour de récréation où ils se concentrent et il y a rarement des situations de mixité avec leurs camarades qui ne sont pas en UPE2A. Alors il faut noter que durant les inclusions en classe ordinaire, nous n'avons quasiment jamais observé de situation de différenciation pédagogique en classe ordinaire de la part des enseignants. L'élève UPE2A doit vraiment s'adapter aux enseignements et aux enseignants, aux autres élèves, et ces difficultés d'apprentissage de la langue française sont généralement qualifiées par les enseignants comme des difficultés scolaires tout court et sont généralement exclusivement renvoyées et externalisées à la charge de l'enseignant du PE2A. Voici un exemple d'une observation dans le premier degré. La maîtresse d'un élève, Yanis, nous explique. Plutôt que de venir en maths, Yanis devrait rester dans sa classe à apprendre le français, en insistant sur sa classe, qui n'est pas donc la sienne, la classe ordinaire. L'élève est décrit ici comme en difficulté scolaire, mais il faut noter qu'il est par ailleurs totalement francophone. Il n'a donc pas besoin d'apprendre la langue française. Par ailleurs, lorsqu'il est en cours de mathématiques, Yanis a été mis de côté, une table à part, pour travailler de son côté sur la symétrie. L'enseignante utilise trois méthodes différentes pour expliciter l'enseignement de la symétrie. Et elle termine sa leçon en s'adressant à moi et en m'expliquant ceci devant l'élève et ses camarades, avec toute la dimension humiliante que cela peut avoir. Vous voyez le temps que je passe avec lui, il est juste à côté d'elle. Je n'ai pas avancé et pour les autres, ce n'est pas du tout possible. Plus largement, tout ce qui concerne la scolarité est vraiment externalisé hein, sur l'enseignant de l'UPE2A, je le disais. Les enseignants de classe ordinaire sont peu sensibilisés à cette question et ils souhaiteraient, dans la plupart des cas, accueillir des élèves qui ont déjà une maîtrise avancée de la langue française, comme si le dispositif UPE2A était finalement le seul en charge de l'avancement de cette langue française. Un exemple lors des conseils de classe. Dans l'essentiel des conseils de classe observés, on s'est rendu compte que les UPE2A sont traités, et c'est dit de cette façon-là, ou alors comme des cas à part, qui ne sont jamais traités au fur et à mesure de l'effectif général de la classe. Souvent, on les traite, entre guillemets, donc au début, hein, de manière à permettre à l'enseignante du PE2A de quitter plus tôt les conseils de classe. On observe aussi une ethnicisation et parfois du racisme qui sont renforcés pour ces élèves dont le statut de migrant ou de réfugié est catégorisé par l'institution scolaire. Dans les propos des professionnels, on ne constate aucune censure. Les origines culturelles sont un prisme de lecture privilégié et audible du fait de la catégorisation d'élèves UPE2A. Par exemple, au collège, l'enseignante UPE2A apprend qu'elle va bientôt accueillir prochainement deux élèves qui proviennent du Koweït. Elle semble très inquiète à cette idée, car elle n'a jamais eu d'élèves qui venaient du Koweït. Ici, le pays d'origine, et non jamais le milieu social ou la scolarisation antérieure, sont un facteur qui explique l'absence ou la présence de difficultés lors de l'arrivée. Un autre exemple, pour un professeur d'EPS, c'est uniquement lorsqu'un adolescent de 15 ans, Hakim, est pour lui originaire, c'est uniquement parce qu'il est originaire d'Algérie, qu'il n'ose pas danser devant toute la classe. Donc en sport, on demande aux élèves de faire une composition de danse. Et l'enseignant nous explique que c'est une question de culture. On précise que cet élève a eu 0 sur 20 en EPS parce qu'il a refusé de faire cette évaluation en danse.
Il faut souligner qu'en fait, le risque d'ethnicisation, voire de racisme des élèves à partir de la centration sur un pays d'origine, au détriment d'autres facteurs explicatifs tels que la qualité de la scolarisation antérieure, le milieu social d'appartenance, c'est un facteur qui s'impose également dans un autre cas extrême que nous avons rencontré sur le terrain, au sujet d'une fratrie en provenance d'Afghanistan. Donc en gros, ce frère et sœur sont jugés pas assez mûrs par rapport aux âges déclarés par leurs parents. Et donc ces deux élèves ont vu associer leur changement de classe à un recul d'un an. Donc leur année de naissance était changée d'un an, d'abord dans le fichier du périscolaire de la mairie, ensuite dans le fichier bas élèves de la ville de fichier national. Voilà. Donc, on voudrait juste pointer le fait qu'au fond, on est en face à un problème certainement d'articulation de rapports sociaux où l'âge est vraiment fabriqué. Et sous prétexte de favoriser l'apprentissage scolaire, on n'a aucune certitude quant au fait que les apprentissages scolaires seront améliorés. Ce qui est certain, c'est que les relations sociales que ces élèves avaient commencé à nouer en classe ordinaire sont coupées, que certainement, dans la longue durée, les relations avec leurs parents, qui certes, avec un père sans doute adoptif, pourront être mises en question une fois adultes et que le rapport à soi de ces enfants voilà, peut être endommagé par un changement de la sorte. Voilà.
Alors, je vais peut-être conclure sur juste l'existence de marqueurs contingentés pour la scolarisation de ces élèves et qui renvoie aussi à la présentation qui vient d'être proposée. Ces élèves-là, et non pas pour les autres, il existe d'autres professionnels aussi qui participent de la mise en place d'une scolarisation ad hoc, notamment le COPSI et le CPE, les infirmières scolaires qui ont un rôle tout à fait déterminant dans ces scolarités. Et ils nous expliquent, ces professionnels, qu'ils s'occupent particulièrement de ces élèves et que pour eux, ils ont bâti des outils tout à fait adaptés. On parle d'adaptation scolaire. Carnet de suivi pour le CPE, rendez-vous systématique pour l'infirmière scolaire. Alors un tel ciblage à la fois précoce par des autorités chargées de la vie scolaire, de la discipline, de l'orientation et du suivi psychologique sanitaire n'est en rien une évidence lorsque l'ambition scolaire affichée par les réglementations formelles sont le droit commun pour tous les élèves. Je m'arrêterai.
Merci beaucoup. C'est un exercice difficile. Bien, à présent, on va laisser la parole à Alexandra Clavé-Mercier pour les Roms Ziganes, prisonniers de l'école. Analyse d'un dossier ethnique.
Merci Jean-Luc. Oui, en 15 minutes, je vais essayer de tenir les délais. Rapidement pour me présenter, donc, je suis docteur en anthropologie. Et pour cette réflexion là, que je vais partager avec vous aujourd'hui, je m'appuie en fait sur plusieurs terrain de recherche que j'ai mené auprès de personnes identifiées comme Ziganes, Gitans, lors du voyage, Roms, etc. On va en parler. En France, en Roumanie et en Bulgarie. et particulièrement dans le cadre de ma thèse qui portait sur les dynamiques migratoires de Roms bulgares dans une métropole française, et particulièrement sur la construction d'une politique publique spécifique à destination de ces migrants. Je m'appuie également sur l'enquête Evascol dont on vient de parler, puisque je faisais partie de l'équipe aussi. Et donc dans ce cadre-là, j'ai réalisé plusieurs monographies dans 4 établissements scolaires d'une même académie. Établissements qui accueillaient tantôt des migrants, enfin établissements même, dispositifs de scolarisation, on va en parler, qui accueillaient tantôt des migrants roms bulgares ou roumains, tantôt des enfants du voyage et tantôt les deux. Alors, donc, tout commence quelque part, enfin, il faut bien partir de quelque part, donc je commence plutôt par ces arrivées de migrants roms, bulgares et roumains depuis le début des années 2000 à peu près, qui vivent en situation précaire, que ce soit des squats, des bidonvilles ou des appartements insalubres, dans les marges des villes françaises. Alors, à l'école, comment ça se passe? A priori, ces élèves-là rentrent dans la catégorie scolaire dont on vient d'entendre parler, la catégorie EANA, donc élèves allophones nouvellement arrivés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la langue française. Ces élèves, il se trouve qu'ils sont définis par plusieurs caractéristiques objectives. On peut citer, pour aller rapidement, leur concentration dans certains territoires urbains, qui s'explique par les regroupements importants liés au lieu de vie, mais aussi la vie en famille élargie, en groupes familiaux, et leurs interconnaissances importantes qui expliquent d'ailleurs les poches de migration. Une autre caractéristique qu'on peut souligner, c'est leur éloignement de l'école, qui là aussi s'explique, bien que je n'ai pas le temps de le faire ici, par déjà en premier lieu par leurs expériences de l'école dans leur pays d'origine et l'importante discrimination qu'ils subissent dans cette institution, dans ces pays, en Europe de l'Est, enfin en Roumanie et en Bulgarie particulièrement, et donc la difficulté, enfin le difficile sens donné à trouver en tout cas à l'école. Et une autre caractéristique, ce sont leurs absences fréquentes et ou répétées de l'école, notamment liées, là aussi à plusieurs facteurs, c'est difficile d'aller très vite comme ça, mais notamment liées aux dynamiques migratoires et particulièrement aux migrations pendulaires effectuées par beaucoup de ces personnes. Donc on le voit, il s'agit là d'un nouveau public qui pose question, qui pose problème à l'école. Dans la même lignée que des discours et des positionnements politiques et médiatiques, on voit un glissement dans les termes qui apparaît au sein de l'éducation nationale entre enfants itinérants et enfants migrants roms. Et donc je voudrais prendre là rapidement un exemple qui est celui de la circulaire dont on a déjà parlé, donc cette circulaire qui réglemente la scolarisation des EANA dont on a parlé, mais également celle des EFIV, donc la autre cible, donc les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, qui sont là pour le coup des enfants français, de nationalité française, mais qui sont aussi traités à part dans l'école française. Cette circulaire-là, et particulièrement cette partie de la circulaire, précise qu'elle concerne donc les élèves, je cite, « issus de familles itinérantes et de familles sédentarisées depuis peu, ayant un mode de relation discontinu à l'école », mais tout en mentionnant le fait que les enfants concernés sont souvent de nationalité étrangère. Premier paradoxe, puisque comme je vous l'ai dit, ces EFIV, a priori, sont français. Ce sont les enfants des gens du voyage. Cette circulaire fait également référence à une autre circulaire interministérielle, celle-ci de 2012 également, qui précise la marche à suivre lorsque des campements illicites existent, pour préciser que sur avis du préfet, le stationnement sur une aire d'accueil peut être prolongé afin d'achever l'année scolaire. Donc là, on a un glissement entre aire d'accueil, qui concerne certains gens du voyage, et campements illicites, où vivent certains migrants roms. Je m'étale pas plus. Par ailleurs, cette circulaire instaure officiellement la fonction de médiateur scolaire, qui sont missionnés par le DASEN pour favoriser la scolarisation des EFIV. Et donc là, on voit, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère, de nombreuses confusions et glissements qui émergent. Qui est FIV ? Qui peut être considéré comme tel ? Sur la base de quels critères ? Et là, on est perdu complètement avec ces migrants roms, bulgares et roumains. Est-ce qu'ils entrent ou pas dans cette catégorie ? On voit qu'on parle de terrain de stationnement, d'aire d'accueil, de campement illicite, de terrain familial, de bidonville, de squat, autant de lieux de vie, autant de termes, en fait, pour décrire des lieux de vie qui recouvrent des réalités variées, mais qui sont perçus toujours de manière homogène, finalement, en contrepoint de la norme de l'habité. On remarque aussi une discontinuité de la scolarité qui peut exister à la fois pour les enfants bulgares et roumains vivant en habitat précaire et pour des enfants du voyage, donc un facteur qui les réunirait. Par ailleurs, il faut noter que le recours à la médiation scolaire qui est suggéré pour les EFIV dans cette circulaire, et non pour les EANA d'ailleurs, je le précise au passage, on ne sait pas pourquoi, est de fait principalement effectif, hein, ce recours à la médiation, auprès des enfants roms, bulgares et roumains en habitat précaire pour faciliter leur scolarisation. Donc tous ces points-là dénotent clairement une confusion dans la catégorisation EFIV là, d'une part, qui semble donc inclure également les migrants roms, bulgares et roumains, de façon assez claire, mais sans jamais les nommer. Donc ça fait écho, là, ici, de manière assez claire, à une catégorie implicite et pourtant largement partagée au sein de l'éducation nationale, celle de Tzigane, cette catégorie de Tzigane ou de Roms en tant que catégorie englobante, catégorie ethnoculturelle, qui engloberait donc ces différentes personnes, quelle que soit leur nationalité, française, roumaine ou bulgare. Et ça donne lieu donc à l'existence de ce que j'ai appelé un dossier ethnique implicite au sein de l'éducation nationale. Alors comment ce dossier ethnique se traduit dans les faits ? En premier lieu, on voit un rassemblement des publics par défaut, en tout cas qui est expliqué comme tel. C'est-à-dire que j'ai pu observer des migrants roms, bulgares et roumains scolarisés dans des dispositifs spécifiques pour les enfants de familles itinérantes et du voyage, donc ces dispositifs qu'on appelle les UPS, et qui étaient scolarisés là par défaut, selon les enseignants, qui mettaient parfois en avant l'absence du PE2A, donc là je suis désolée, c'est encore très très sigle, mais normalement vous devez suivre parce que vous avez eu la présentation précédente, donc les UPE2A pour apprendre le français, donc il n'y a pas d'UPE2A dans certains établissements, donc qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants roms, roumains et bulgares ? On les oriente en UPS avec leurs camarades gitans, manouches, tziganes, français. Or, dans les établissements scolaires observés, qui n'ont pas donc ces UPE2A, sont aussi scolarisés d'autres enfants nouvellement arrivés en France, notamment marocains et algériens, venant d'Italie et d'Espagne. Et eux, ils sont d'emblée positionnés dans leur classe de référence et ils n'ont bien souvent pas d'autre prise en charge spécifique que juste le fait d'être dans leur classe d'âge, c'est ce que j'appelle classe de référence, dans leur classe d'âge, c'est tout. Pas de prise en charge en UPS. Et aucun acteur scolaire n'a jamais envisagé de leur faire bénéficier d'une prise en charge particulière en UPS, contrairement à leurs homologues roumains et bulgares, parce qu'ils sont identifiés comme roms. Par ailleurs, donc, enfin, c'est pas par ailleurs, c'est d'ailleurs, c'est ce point découle donc de celui-ci. Ce qui est en jeu là, c'est cette identité commune qui est automatiquement perçue et mise en avant. Puisque pour certains enseignants, il s'agit d'une même culture tzigane et la prise en charge d'enfants roumains et bulgares identifiés comme roms fait donc sens en UPS. Et donc j'ai pu observer des classes dans lesquelles il y avait donc plusieurs enfants roumains et bulgares identifiés comme roms qui étaient scolarisés en UPS, que ce soit au primaire ou au collège. Et c'est cette façon de faire est complètement appuyée par les responsables académiques, comme le montrent ces citations-là. Donc je n'ai pas le temps de lire, vous non plus d'ailleurs, c'est super frustrant. Mais juste pour vous montrer quand même rapidement que voilà, pourquoi c'est appuyé par ces citations ? Ben, parce que les responsables académiques travaillant auprès de à la fois des EANA et des EFIV, mettent en avant cette identité commune à travers ces termes de communauté, par exemple, ou encore de peuple nomade, là je soulignais en gras, d'une même minorité qui serait discriminée au niveau européen. Ce n'est pas les seuls, hein, là on parle de l'école, mais c'est largement partagé de manière générale. Et là, voilà, ils sont tziganes, ils se retrouveraient tous sous cette même catégorie de tziganes. Et donc, peut-être je vais lire cette phrase là que j'ai surlignée en gras, qui est assez intéressante et tout à fait claire. Donc la personne dit, c'est un traitement par le dossier, alors ces élèves-là, à savoir les migrants roms, bulgares et roumains. C'est un traitement par le dossier allophone, puisqu'ils sont bulgares, non francophones et tout ça, mais ce sont les caractéristiques des gens du voyage. C'est un dossier qui croise les deux dossiers. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Et donc, ça a des conséquences, tout ça. Ce n'est pas juste des discours, enfin, forcément, vous l'avez vu, ils sont mélangés dans certaines classes, et ça donne lieu à des supports pédagogiques concrets qui existent en conséquence. Et je pense notamment à ce qui est appelé, dans plusieurs établissements scolaires, le cahier nomade des élèves. Alors, le cahier nomade, c'est quand ils vont, comme les collègues l'ont expliqué, quand les enfants vont en classe, dans leur classe d'âge, leur classe de référence, pour les temps d'inclusion, qui sont assez variables, ils ont un cahier nomade. Donc là, c'est une pratique de différenciation pédagogique pour le coup, mais bon, très très différentialiste. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout comme les autres dans leur classe, mais ils font leur petit cahier nomade. Ça s'appelle comme ça. Alors, versus, parce que quand même, tout le monde ne l'appelle pas comme ça, d'autres l'ont baptisé le petit fichier d'autonomie en classe, hein, qui est assez clair. Voilà, mais les termes sont quand même assez importants. Par ailleurs, il faut savoir que dans ces classes spécifiques, donc les UPS, là, de nombreux ouvrages sont utilisés comme support de lecture qui font référence aux tziganes, roms, jour du voyage. À savoir, toujours, la roulotte, le cirque. Voilà. Et c'est en lien aussi avec les projets ethniques qui sont très nombreux dans ces dispositifs, qui sont pensés comme... ça part d'une bonne volonté, hein, qui sont pensés comme permettant de réutiliser les marqueurs identitaires des élèves, donc c'est censé leur parler, et donc on voit comme ça nombre de projets, donc là autour de, il y a eu la mort de Manitas de Plata, ou le film Spartacus et Cassandra, qui est un film sur des Roms roumains qui ne parlent absolument pas à des enfants voyageurs français, etc. Donc, je tiens à préciser quand même que donc, ça s'explique, ce fait de ce traitement-là ensemble, puisque ces différentes personnes ont longtemps été traitées ensemble, notamment pour leur accès aux droits. Et là, les chercheurs, les savants ont un rôle important là-dessus, les associations aussi, les militants, ce qu'on appelle les élites roms. Mais depuis les années 80, quand même, ça commence à faire, les recherches en anthropologie et en sociologie montrent très clairement la diversité importante au sein de ce qu'on appelait avant cet ensemble tziganes. Les histoires sont différentes depuis des siècles, puisque ces personnes-là sont implantées dans des pays différents en Europe, voire dans le monde depuis des siècles. Donc les langues sont différentes, les religions sont différentes, les cultures sont différentes, les modes d'habitat, etc., etc. La question du nomadisme aussi, qui est un autre préjugé concernant ces personnes, est à souligner, puisque les recherches montrent que le nomadisme, c'est plutôt l'exception que la règle concernant cet ensemble roms-tziganes, si tant est qu'il existe. Et cette exception-là, il se trouve qu'elle est française avec les gens du voyage. Et il y a une confusion aussi existante entre l'itinérance ou la semi-itinérance de certaines personnes qu'on appelle les gens du voyage en France et les migrations de Roms, Roumains et Bulgares, par exemple. En tout cas, il est clair qu'on ne peut pas scientifiquement parler d'une même culture. Et cette homogénéisation-là ne fait pas sens, je vais conclure là-dessus, pour les enfants concernés et leurs familles. Ça me semble quand même assez important de le montrer, de le dire, tout simplement parce que, de manière objective, c'est pas du tout les mêmes rapports à l'école. Les problématiques, quand il y en a, pour ces élèves, ne sont pas non plus les mêmes. On voit certains sont francophones, d'autres allophones. Par ailleurs, on voit, j'ai pu vraiment observer que les élèves passent beaucoup de temps dans ces dispositifs de scolarisation à se distinguer les uns des autres en permanence, puisqu'ils sont réunis au sein d'une même classe, mais pour eux, ils ne se sentent pas tous pareils, et donc ils passent leur temps comme ça à se différencier. Et par ailleurs, il a leur réaction à ces projets là, dont je vous ai parlé, les projets ethniques, étaient assez intéressantes à analyser, puisque la plupart du temps, ils ne comprennent pas pourquoi on leur fait systématiquement travailler sur le cirque ou on leur fait lire des histoires où il y a des hérissons et des roulottes, alors que eux, c'est pas du tout, ça ne fait pas du tout sens dans leur vie quotidienne. Voilà, donc là, c'est une citation d'une jeune collégienne qui disait clairement « c'était un peu nul, mais pourquoi on fait que des trucs comme ça ?» Voilà, bonne question. Donc, pour conclure, ce qu'on appelle les Roms tziganes, semble alors prisonnier un petit peu de l'école française, ou bien alors, on peut le voir à l'inverse, c'est ce système scolaire finalement qui est prisonnier d'une approche culturelle, d'une approche ethnique, mais qui reste implicite. Donc qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que c'est un besoin, certainement, et que révèle ce besoin de catégoriser? Donc encore une fois, ce n'est pas le seul fait de l'école, hein, c'est le reflet de la société plus largement. Mais voilà, donc je pose ces questions finales pour ouvrir la discussion. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bien, je crois qu'on a eu trois interventions très intéressantes et en même temps solidaires, je dirais, qui traitent de la manière dont l'école, par ses dispositifs, crée des catégories d'élèves et les traite. Et je laisse à présent la parole à la salle. L'intervention là, sur ma droite. Oui, et ensuite ici.
Bonjour. Oui. Je serai très rapide. Je suis enseignante dans le second degré. Je suis syndicaliste également. Et je voudrais juste faire une remarque. J'ai trouvé dans vos trois communications qui m'ont beaucoup intéressée, j'ai trouvé qu'il y avait cependant un biais, donc je vous livre. Il me semble qu'elles ont mélangé quelquefois les niveaux de responsabilité, et je pense qu'il faut essayer peut-être justement de les différencier. Il me semble qu'il y a un niveau très fort de responsabilité qui incombe à l'institution scolaire, et il y a un niveau de responsabilité qui incombe aux enseignants et au personnel en général. Et j'ai trouvé, moi, en tant qu'évidemment enseignante du second degré, peut-être je suis un peu à fleur de peau, disons, mais j'ai trouvé quelquefois votre présentation un peu à charge par rapport à l'action des professionnels. Et je voudrais justement témoigner du fait qu'il y a une... sans les dédouaner, mais ce n'est pas question de chercher à dédouaner de la responsabilité et également des mauvaises pratiques scolaires, hein, parce que l'intitulé de la session s'appelle les pratiques, donc on a l'impression en effet que ça se passe beaucoup, beaucoup dans la classe et dans le domaine de la pédagogie. Alors je ne veux pas dédouaner la responsabilité des enseignants, mais je voulais insister sur le fait que l'institution a une très grande part de responsabilité dans ses pratiques, qui en effet ne sont pas forcément toutes égalitaires, inclusives, etc. Une grande forme de responsabilité également parce que les enseignants sont extrêmement démunis, les personnels sont démunis, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas la formation nécessaire, ils n'ont pas les moyens non plus en termes de recours donc pour adapter un enseignement ou aussi pour répondre à la spécificité, à la demande de certains élèves et de certaines familles. Donc voilà, c'était juste pour rétablir cet équilibre parce que il me semblait que c'était un petit peu trop... enfin voilà, il y a vraiment une volonté, je pense, de la part du corps enseignant aussi de faire au mieux, même si quelquefois c'est maladroit.
Merci. Et Marie Stripier qui veut intervenir, vous vouliez intervenir. Il y aura peut-être encore... Oula. Pas pouvoir...
Excusez-moi, bonjour. C'est juste, je suis enseignante dans le secondaire. J'ai la même réflexion que madame et je voulais appuyer ce qu'elle venait de dire.
Oui, bonjour. Je voulais vous dire, je suis Marie Stripier, je voulais vous dire qu'on a fait des travaux autrefois, il y en a eu à l'URMIS, et il y a eu des masters sur ce qui arrivait aux étudiants à l'époque, c'était les CLIN, les CLA, etc. Et il y a deux questions qui étaient en fait différentes et qu'à mon avis, il faudrait différencier. Bon, la première, c'est que si on ne faisait rien, on serait tous en train de se dire comment ça se fait qu'il n'y ait aucun dispositif pour les enfants qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas français, etc. Donc, moi, je pense qu'à une certaine époque, ça a été salué en disant au moins quelque chose pour les enfants qui arrivent et qui après vont retrouver le chemin ordinaire. Mais il y avait deux questions qui ne sont pas les mêmes. Il y a la question de l'intégration dans la classe et il y a la question de la réussite. Et c'est pas la même chose. Les masters qu'on avait fait passer autrefois montraient que les enfants arrivaient dans les classes ordinaires, mais les plus grandes difficultés étaient avec les élèves. C'était pas tellement avec les profs que ça se passait, c'était avec les autres élèves. Et il y avait là des difficultés, notamment par exemple pour les enfants asiatiques, où la difficulté de la langue était plus forte que pour d'autres. Et qui, une fois sortis de l'école, n'avaient pas de copains, restaient entre eux, regardaient des vidéos chinoises, etc. Donc, il y avait toute une question sur l'amitié, sur la... et il y avait même des parents qui n'étaient pas tellement à ce que leurs enfants deviennent trop copains avec des gamins, avec la culture de banlieue, ils préféraient. Donc il y a la question de l'intégration au groupe d'âge, il y avait la question de la réussite. Et là, je ne sais pas si vous avez des résultats, mais est-ce que les enfants qui sont passés par ces dispositifs qui ont changé 100 fois de sigle et qui s'appellent encore autre chose maintenant, on arrive à avoir les mêmes taux de réussite dans les diplômes, etc. Parce que sinon, on reste, je suis un petit peu d'accord avec un ton qui dit, ah là là, on catégorise. Si on catégorise pas, pas terrible non plus. Si on catégorise, il y a des risques de dérive. Donc il faut poser la question des enjeux. Est-ce que l'enjeu, c'est l'intégration à la classe d'âge, au quartier, et l'enjeu de réussite? Et là, je pense que les rapports entre élèves, c'est quand même relativement important.
Merci.
Là, je vais répondre d'abord peut-être.
Juste, encore une question, puis après, on va laisser. Oui, vite, on va voir.
Bah, écoutez, moi, je ne suis pas enseignante ni du secondaire ni du primaire, bien que j'ai été dans une autre vie. Ça fait quand même 30 ans que je suis à l'université, j'ai eu exactement le même sentiment que vous. J'ai eu l'impression, un peu, Richelieu a dit « donnez-moi un seul mot d'un homme » et je trouvais de quoi le faire pendre. Et j'ai parfois l'impression chez les universitaires qu'il y a une capacité à sortir une pratique et finalement de faire pendre la personne. Alors je rejoins madame tout à fait, on est sur un équilibre d'équilibriste entre la reconnaissance de la diversité, la reconnaissance d'une spécificité et puis la catégorisation. Et dans vos discours, j'ai senti qu'on c'était trop facile un peu de faire ressortir ce qui sortait de la catégorisation sociale sans mettre en valeur ce qui sortait finalement de la reconnaissance culturelle. Je ne pense pas que dans votre tête, vous pensiez que l'universalisme républicain aurait réglé le problème. Alors j'avais envie de vous renvoyer la balle et vous dire, vous seriez enseignant, vous auriez fait quoi différemment? Et ça m'aurait intéressé de l'entendre. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment que ces enseignants-là? Parce que je pense que c'est aussi notre rôle comme universitaire de donner des solutions aux gens, pas seulement de leur dire vous êtes tombé du mauvais bord du fil de l'équilibre. Alors j'avais un sentiment, moi aussi, j'étais mal à l'aise. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enseignants dans la salle.
On va laisser répondre et puis on va voir si on a le temps après de prendre encore une ou deux questions, mais j'en doute.
D'abord, on n'a pas précisé, il faut qu'on le fasse. Ce projet de recherche EVASCOL a été soutenu par le Défenseur des droits de la République française. Donc on remercie le Défenseur des droits, son département recherche, puisqu'il nous a donné une grande liberté dans l'enquête. Ce projet de recherche a subi aussi, puisqu'on en parlait ce matin, des pressions extraordinairement fortes, notamment de la part de au moins deux, mais surtout un recteur, avec des interdictions d'enquête extrêmement, extrêmement fortes. Ou de publication. L'autre projet, Éduc Inclus, dans d'autres territoires, on n'est quand même pas maso, a été beaucoup plus facilité par les acteurs de terrain. Alors pour répondre, d'abord il y a un exercice une difficulté d'exercice de forme, hein, 15 minutes c'est très peu. Il faut préciser que pendant ces projets de recherche, pour EVASCOL, nous sommes restés 2 ans dans les classes, à raison minimum d'une demi-journée par classe et par chercheur, dans 6 académies, pour Éduc Inclus, 2 autres années. Donc il ne s'agit pas du tout de pratiques comme ça, piochées sur une semaine d'observation. Après, on n'a pas, par un choix problématique, on n'a pas montré des choses qui étaient... qui pouvaient produire des dimensions plus positives dans l'expérience, notamment l'engagement des enseignants, le temps passé par exemple à recevoir des familles, l'implication individualisée dans les orientations, et qui font que ces professionnels-là, effectivement, sont très investis et ils sont aussi pour certains des vrais militants de la cause. Et ça interroge le rôle de sociologue parce que c'est très difficile d'enquêter dans des milieux militants. Parce qu'en fait, nous partageons les mêmes valeurs que les personnes qui sont militants en général, sauf que ces personnes, c'est pas parce qu'elles sont militants qu'elles sont toujours réflexives quant à leur pratique professionnelle. Et notre rôle, c'est aussi d'enquêter dans ces terrains sensibles et d'expliquer, de décrypter le dévoilement là où on pense important de le faire. On pense qu'on n'a pas été organisé par la hiérarchie de l'éducation nationale. On sait très bien qu'il y a des territoires, je pense notamment à un territoire d'enquête où on a beaucoup travaillé avec une grande difficulté, où effectivement il y avait des tensions fortes entre la hiérarchie de l'éducation nationale et les enseignants, notamment d'un syndicat et d'un autre. Mais on s'est rendu compte aussi que, alors il ne s'agit pas de nommer les organisations syndicales, on s'est rendu compte aussi que sur le terrain, certains acteurs étaient très engagés dans certains syndicats, y compris et dans des réseaux associatifs comme RESF. Et par ailleurs, eh bien, dans leur classe, soit ils refusaient les inclusions, soit ils refusaient les élèves au motif des justifications qu'on vous a avancées. Donc en fait, cette pénétration entre l'élitisme républicain et l'exotisme, la valorisation de l'exotisme, elle produit des choses assez ambivalentes. Et c'est aussi notre rôle de montrer cette complexité. Ensuite, je tiens quand même à faire une distinction. La différenciation pédagogique, ça n'est pas le différentialisme pédagogique. La différenciation pédagogique, c'est l'objectif est le même pour tous, le socle commun, et on propose des outils qui sont ajustés au niveau de l'élève, et en ceci, ça ne concerne pas forcément les enfants migrants, ça concerne les enfants de niveaux scolaires différents dans la classe. Voilà pour les rapports avec l'éducation nationale. Mais il y avait une question sur les pairs aussi.
On va peut-être laisser la parole aux collègues qui veulent intervenir, et puis on va devoir arrêter parce qu'il faut... pour suivre le colloque avec la conférence qui doit suivre.
Alors moi je vais essayer de répondre à la question et à l'interpellation des collègues du second degré, étant moi-même anciennement prof de terrain. Donc là pour le coup je parle aussi de mon expérience de terrain. Je ne sais pas parce que je suis maître de conf que j'ai oublié aussi les pratiques. Ce qu'on interroge quand on fait une recherche sur un objet aussi complexe que l'orientation, c'est bien d'aller chercher tous les processus internes. Et on voit bien que dedans, ce qui est mêlé, c'est à la fois les dispositifs institutionnels qui mettent une pression à l'orientation, donc pas de maintien par exemple, donc il faut faire quelque chose de ces élèves-là, et en même temps, le non-accompagnement, et vous l'avez noté, au niveau de la formation. Alors, ayant été formatrice justement des enseignants de SECPA, on voit bien que ces élèves-là, une fois qu'ils y sont, et ça c'est les résultats de la recherche, je n'ai pas eu le temps de présenter, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de résultats que ce que je vous ai montré, 80% des élèves de SECPA sont satisfaits de leur scolarisation en SECPA. C'est-à-dire que justement les pratiques adaptées qui leur sont proposées conviennent et correspondent à leurs attentes. Après, la question de la réussite, ça c'est un second niveau. C'est justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi ces élèves-là, finalement, dans un parcours ordinaire, à un moment donné, sont dans une trajectoire scolaire sortis pour, même s'ils sont contents, à 80% d'être en SECPA, finalement ont des possibles limitées en termes de réussite scolaire. Et là, il y a plein d'éléments, plein de facteurs. Et en fait, il faudrait faire des dizaines et des dizaines d'enquêtes différentes. Il y a le micro, c'est-à-dire ce qui se passe dans la classe, dans la relation enseignant-élève, ça c'est une réalité, avec des tas d'enquêtes qui ont été menées dans les pratiques enseignantes. Et là, c'est aussi bien la pratique de classe que les pratiques du collectif au sein de l'établissement. Parce que ça aussi, c'est aussi des travaux qui existent, hein. On pourrait parler longtemps là-dessus. Il y a après le niveau méso. Effectivement, on vient parler des inspecteurs qui vont faciliter ou pas certaines aides, et puis le niveau institutionnel macro, qui va donner des politiques éducatives et demander certains niveaux de résultats, en particulier au niveau des évaluations. Et les établissements, on les regarde aussi sur leur niveau de réussite au DNB. Donc il y a un retour sur investissement, on veut des résultats. Donc là, c'est pour répondre un petit peu à cette question-là. La question de la réussite reste à enquêter. Je vais laisser la parole à ma collègue, si elle veut.
Si on
est aussi bref.
Ouais,
non, bah, vraiment.
Désolée, du coup, j'ai arrêté en plein développement. On n'a pas le temps de répondre aux critiques qui nous sont faites, c'est un petit peu dommage, mais c'est le jeu aussi.
La pause.
À la pause, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec les prises de parole de mes collègues, là, donc je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit. Il me semble que les contraintes structurelles ont été soulignées, vu qu'on en a conscience, peut-être qu'elles n'ont pas été assez soulignées dans nos communications de 15 minutes. Par ailleurs, sur le fait d'avoir ou pas les moyens de répondre aux spécificités de certains élèves, j'entends, mais parfois peut-être qu'il faut se demander de quelles spécificités on parle. Parce que là, en l'occurrence, pour les enfants dits du voyage, ces fameux EFIV, de quelles spécificités on parle en fait? Pourquoi aujourd'hui il y a des classes spécifiques pour ces enfants dits de famille itinérante et du voyage, alors que la plupart ne bougent plus, par exemple? Alors au départ, ces classes, ces dispositifs ont été créés pas en raison de l'itinérance, qui compliquait la scolarisation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et pourtant, il y a un maintien quand même d'un traitement à part qui est maintenu de ces élèves-là. Voilà. Donc la question de la reconnaissance culturelle, oui, mais quelle culture, quoi? Voilà. Enfin, comment? À quelle fin? Voilà.
On arrête là. Bonne question. Merci.